Et maintenant, nous vous proposons d'entendre une conférence intitulée « Charité, quand tu nous tiens, habiter notre maison commune ». Elle était présentée par le frère Gilles Danroc au couvent des Dominicains de Toulouse. Nous écoutons le frère Gilles Danroc.
Habiter. Habiter, demeurer. Demeurer, avoir un domicile. Avoir une carte d'identité. Être repéré dans l'espace. Avoir une vie sociale. Pour avoir cette vie avec les autres, il faut habiter quelque part. Et ce mot n'est pas si simple à comprendre, et c'est une sorte de nuée de verbes et de mots qui peut nous aider à entrer dans ce que c'est que habiter sa vie. Pour que la vie, je dis la vie qui vient d'ailleurs, d'autrui, puisse habiter en moi. Et que si cette vie habite en moi, et nous le verrons, cette vie, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, donc habiter, c'est aimer, nous le rejoignons par là. Habiter, c'est à la fois habiter sa vie et laisser la vie venir habiter en nous. Et nous transformer. Vous voyez que ce mot d'habiter nous entraîne beaucoup plus loin que le simple fait habituel d'avoir un logement. Et je prendrai justement le temps, la durée, qui est dans le mot demeurer que saint Jean reprend dans son évangile. Il y a l'idée de durée, la durée d'une vie. Et même une durée, quand on parle de maison familiale, ben c'est une maison qu'on a reçue des ancêtres, du grand-père, de la grand-mère ou d'autres membres de la famille. Et nous faisons famille dans un lieu. Et quand nous faisons famille, ce n'est pas que le temps répétitif du logement. J'ai un logement qui est la façon moderne, contemporaine, de penser le terme « habiter ». J'ai un logement et dans ce logement, eh bien, j'ai mes habitudes, j'ai mon rythme répétitif. Je me lève, je prends mon petit déjeuner, je pars au travail, je reviens le soir, je mange, je me couche. C'est les 3-8 qui se déroulent dans un logement. Habiter, c'est habiter une maison dans laquelle nous recevons le temps et nous le partageons en famille. Et c'est dans ce sens que le pape François a pris, pour définir l'écologie intégrale dont nous allons parler, le terme de « habiter une maison commune ». Ce n'est pas « habiter un studio », c'est « habiter une maison commune » parce que cette maison commune est le lieu, l'espace où le temps de la vie, le temps de la vie de l'humanité se déroule. Pas que mon temps, ou un temps déjà inscrit dans les livres d'histoire, mais un temps qui nous a été donné et qui est un don, comme la nature, pour que nous puissions en vivre. La terre est donc une maison commune. Et savons-nous habiter la terre ? La première manière de l'habiter a été de vivre au sein de la nature, l'âge de la cueillette, l'âge de la chasse, une mobilité étrangement fixée dans des grottes comme Lascaux, etc. Il y a eu ensuite le temps de l'installation dans un espace. C'est le temps de l'agriculture. Là, l'humanité a pris conscience non seulement que la nature produisait, offrait ses fruits pour la nourriture de l'humanité, mais que l'humanité pouvait elle-même s'occuper, prendre soin, cultiver la nature pour qu'elle donne, selon le rythme des saisons, de quoi vivre. La nature, culture, vivre. Maintenant, il y a un grand problème pour cette maison, c'est qui nous l'a donné. Parce que, apparemment, justement, dans l'espace de la nature, dans l'espace de cette maison, mais il n'y a pas le propriétaire, le créateur de cette nature. Il a laissé cette maison en location. Et cette location nous a été transmise. Mais qui est le propriétaire? Effectivement, dans une perspective chrétienne, on peut dire que Dieu paraît absent. Et c'est pour cela qu'il est intéressant d'habiter cette terre en son nom et en repérant les traces d'une présence. Et une maison habitée, c'est une maison où il y a de la vie, où il y a une présence. Et si Dieu est, il est vie, et donc il y a une vie de sa présence et de son absence, dans un rythme qui lui appartient, un petit peu comme dans les paraboles de l'Évangile, des évangiles synoptiques, dans les paraboles, soudain, le roi est absent. Il est parti en voyage et il laisse à ses serviteurs, aux vignerons, à d'autres, de s'occuper de la maison ou de la terre. Le roi semble absent. Pourtant, il revient au dernier moment de la parabole pour en tirer la leçon, pour apprendre à vivre, j'allais dire à mieux vivre sur cette terre. La question donc qui se pose de l'habiter, c'est: savons-nous habiter la terre comme une maison commune? Et là, deux citations d'un type un peu poétique peuvent nous aider à entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus profond que le simple déroulement des activités humaines et la répétition du jour et de la vie quotidienne. Habiter la terre en poète, nous dit Hölderlin, c'est-à-dire ne pas habiter la terre selon la répétition, mais habiter la terre en étant de plus en plus soi-même. Et puis, ce qui est connu et qui nous aiderait peut-être à fonder la question de l'écologie intégrale, la terre est à hériter de nos enfants. C'est l'avenir qui est le sceau que nous savons bien habiter cette terre, c'est-à-dire que nous savons la recevoir, la bâtir, y habiter, la rendre habitable et la transmettre aux suivants, aux générations, au temps qui ne nous appartient pas et qui appartient à Dieu. Savons-nous habiter la terre? Qu'en dit notre pape François dans l'encyclique Laudato Si de 2016, les deux premiers paragraphes?
Laudato Si, mi Signore, loué sois-tu, mon Seigneur, chantait saint François d'Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladies que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Citation de Romains, lettre aux Romains, chapitre 8, verset 22. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Confère livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie. comme elle nous restaure.
Savons-nous habiter la terre? Le paradoxe d'une terre et d'une humanité écartelée entre l'émerveillement et l'horreur, entre la beauté et la détresse, entre la vie et la misère et la destruction de la vie. La responsabilité d'habiter se tient dans ce paradoxe qui qualifie l'humanité capable non seulement du meilleur et du pire, mais capable de vie et de mort. Et c'est ainsi que le programme de Laudato Si, dont nous allons entendre tout à l'heure le développement par le pape François, nous permet de comprendre cette immense problématique de la responsabilité, puisque l'humain et l'humanité sont précisément à la place de responsabilité de l'ensemble de la nature et de la société. C'est cette responsabilité qui est finalement à décrire et à mettre en œuvre pour le bien, pour l'émerveillement, pour la beauté, pour la bonté, pour la vérité de la vie. Mais, comme le pape vient de le dire, il est question aussi de l'homme qui se croit propriétaire, de l'humanité qui se pense et agit en propriétaire de cette maison commune, comme si c'était elle qui l'avait bâtie et qui défendait bec et ongles son droit de propriété. Alors, cette idée de propriété se retrouve dans un mot qui nous vient de Descartes. Donc, Descartes a, au début de son, enfin, plus exactement, au chapitre 6e de son fameux discours de la méthode, dont nous allons entendre un extrait, va définir la maison commune, la création, la terre et l'univers, non pas comme donnée par Dieu qui est au centre, au début et au terme de l'histoire, comme jusque auparavant on l'avait imaginé, pensé, rêvé, goûté, vécu, mais c'est maintenant l'homme lui-même, ce qu'on appelle un anthropocentrisme, c'est-à-dire centré sur l'homme, c'est l'homme qui est maître de la nature.
Car ces connaissances m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctivement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie.
Avec cette espèce de revirement du regard, dont je vais essayer de rendre compte, Descartes donc recentre la création, la nature, la maison commune, non plus sur Dieu, décentre de Dieu, mais la recentre sur l'homme qui devient l'acteur principal, le propriétaire premier de tout ce qui est disposé pour lui, pour que l'homme puisse s'en servir pour sa santé. L'humanité est à un tournant à ce moment-là, grâce au déploiement de la mathématique, des sciences en général, des sciences expérimentales, après la Renaissance, eh bien, il se trouve qu'une maîtrise de l'artisan, dont a parlé Descartes, nous permet de penser que l'homme va pouvoir avoir une maîtrise de l'ensemble de la nature. Et du coup, cette maîtrise va fonder une utilisation de la nature pour la santé, c'est-à-dire que l'être humain puisse vivre dans le confort et la santé, comme si la nature était devenue sa pourvoyeuse et sa servante et son infirmière. Bon. Comment sortir de cette impasse, puisque l'homme n'est plus habitant, mais maître de la nature? Et c'est la tâche même de l'encyclique Laudato Si, dont nous allons entendre le programme au paragraphe 15, qui est le programme général et la démarche même de cette encyclique, comme un apprentissage pour réhabiter la maison commune.
J'espère que cette lettre encyclique, qui s'ajoute au magistère social de l'Église, nous aidera à reconnaître la grandeur, l'urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. En premier lieu, je présenterai un bref aperçu des différents aspects de la crise écologique actuelle, en vue de prendre en considération les meilleurs résultats de la recherche scientifique disponible aujourd'hui, d'en faire voir la profondeur et de donner une base concrète au parcours éthique et spirituel qui suit. À partir de cet aperçu, je reprendrai certaines raisons qui se dégagent de la tradition judéo-chrétienne afin de donner plus de cohérence à notre engagement en faveur de l'environnement. Ensuite, j'essaierai d'arriver aux racines de la situation actuelle pour que nous ne considérions pas seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus profondes. Nous pourrons ainsi proposer une écologie qui, dans ses différentes dimensions, incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure. À la lumière de cette réflexion, je voudrais avancer quelques grandes lignes de dialogue et d'action qui concernent aussi bien chacun de nous que la politique internationale. Enfin, puisque je suis convaincu que tout changement a besoin de motivation et d'un chemin éducatif, je proposerai quelques lignes de maturation humaine inspirées par le trésor de l'expérience spirituelle chrétienne.
Dans ce programme qui nous remet dans une juste position par rapport à la maison commune et qui nous permet d'habiter la vie en étant habité par une vie qui nous dépasse. Et donc, habiter nous fait penser au temps de la maturation humaine qui, d'une certaine manière, s'oppose à la possession immédiate, à l'efficacité immédiate. Habiter la vie, habiter sa vie, ce n'est pas un gain immédiat. Habiter sa vie, c'est apprendre à maturer sa vie, avoir une vie comme une maturation permanente jusqu'à notre dernier souffle. Et cette maturation humaine s'oppose justement au processus de possession et de domination. Car le processus de possession et de domination est peut-être le processus de maîtrise et ce qui nous coupe de l'autre et ce qui nous empêche d'avoir une relation juste avec autrui. D'avoir une relation, vous avez entendu le mot dans la bouche du pape, une relation éthique avec le monde, avec soi-même et avec l'autre. Et d'une certaine manière, avoir une relation juste et vraie avec Dieu lui-même, dans les signes de sa présence, comme dans la perception de son absence, car il est ailleurs, tout en étant là. Et c'est là que un des principes d'écriture du pape François est à l'œuvre dans cette encyclique. Il nous le répète depuis le début, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, le temps est supérieur à l'espace. Or, quand nous parlons d'habiter, nous pensons plutôt à de l'espace. Et habiter, c'est créer un espace de vie dans l'espace du monde. Et créer cet espace, nous dit le pape, dans le fond, c'est ouvrir le temps de la maturation de soi et de ce que je vais appeler une connaissance mutuelle. Il s'agit de connaître et de se faire connaître dans un mouvement qui va de soi à la nature, de la nature à soi, de soi à l'autre et de l'autre à soi. C'est un mot qui, il y a un mot qui indique bien cette attitude de connaissance mutuelle, c'est le mot de respect. On parle beaucoup, par exemple, de droits humains, et on va en reparler à propos de, justement, habiter selon le droit, selon un règlement, selon une réglementation de la vie commune, cette maison commune. Il nous y faut du droit, certes, mais la question des droits de l'homme, on a oublié qu'il s'agit premièrement du respect des droits de l'homme, le respect des droits de l'autre et le respect de mes droits. Il ne s'agit pas d'une attitude d'individualisme, une attitude d'immédiateté du droit, mais de la progression dans le respect. Voilà le maître mot qui ouvre un espace et un temps de maturation. C'est aussi vrai de la nature, on le voit avec le rythme des saisons, des semailles jusqu'aux récoltes. On le voit aussi du corps humain. Habiter sa vie, c'est apprendre son corps. Apprendre que son corps prend le temps de grandir, de se transformer et d'arriver à une sorte d'accomplissement de lui-même dans une sagesse de vie. La matière prend du temps, la nature prend du temps, notre corps prend du temps et se prend avec le temps. Le temps est supérieur à l'espace, car l'espace est un cadre statique, même quand il est traversé par une route, un avion, un bruit, un éclair. Le temps, c'est le temps progressif de la maturation. Habiter sa vie, c'est prendre le temps de vivre. C'est bâtir son espace, c'est bâtir sa maison, c'est mettre son espace personnel en relation avec l'espace qui nous environne. On a déjà le mot d'environnement qui vient avec l'apprentissage de l'autre, avec l'apprentissage de la vie. C'est l'apprentissage du temps mutuel. Qu'est-ce que le temps mutuel ? Eh bien, c'est la clé de l'évangile de la création que le pape François a développé dans le deuxième chapitre de son encyclique, le premier chapitre étant le constat de ce monde traversé aussi par la dévastation d'une maîtrise absolue de la nature. Quand on ne prend plus soin de la nature, eh bien, elle dégénère sous nos yeux. C'est la culture du rebut, la culture du déchet, jeter la vie, éparpiller la vie. Et en revanche, le deuxième chapitre répond à ce constat en proposant de relire l'évangile de la création.
Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde, parce que lui commanda, eux furent créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne passera, dit le psaume 148. C'est pourquoi la législation biblique s'attarde à proposer à l'être humain diverses normes, non seulement en relation avec ses semblables, mais aussi en relation avec les autres êtres vivants. Si tu vois tomber en chemin l'âne ou le bœuf de ton frère, tu ne te déroberas pas. Si tu rencontres en chemin un nid avec des oisillons ou des œufs sur un arbre ou par terre, et que la mère soit posée sur les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits. Au livre du Deutéronome, chapitre 22. Dans cette perspective, le repos du septième jour n'est pas proposé seulement à l'être humain, mais aussi afin que se repose ton âne et ton bœuf. Exode au chapitre 23. Nous nous apercevons ainsi que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. En même temps que nous pouvons faire un usage responsable des choses, nous sommes appelés à reconnaître que les autres êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu et, par leur simple existence, ils le bénissent et lui rendent gloire, puisque le Seigneur se réjouit en ses œuvres. Psaume 104. Précisément en raison de sa dignité unique et par le fait d'être doué d'intelligence, l'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes, car le Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre. Livre des Proverbes au chapitre 3. Aujourd'hui, l'Église ne dit pas seulement que les autres créatures sont complètement subordonnées au bien de l'homme, comme si elles n'avaient aucune valeur en elles-mêmes et que nous pouvions en disposer à volonté. Pour cette raison, les évêques d'Allemagne ont enseigné au sujet des autres créatures qu'on pourrait parler de la priorité de l'être sur le fait d'être utile. Le catéchisme remet en cause de manière très directe et insistante ce qui serait un anthropocentrisme déviant. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. Les différentes créatures voulues en leur être propre reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. C'est pour cela que l'homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses.
On le voit, c'est un évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle, que ce livre de la création. L'évangile de la création répond à une proposition qui avait été faite dans les années 90, à la fin du XXe siècle, par Edgar Morin, dans son maître livre « Terre-patrie ». Donc, il ne s'agit pas de maison commune, mais une patrie commune qui est la terre. Il dit, il avait dans ce livre développé l'idée de l'évangile de la perdition. Qu'est-ce que l'évangile de la perdition ? L'évangile de la perdition, ça voulait dire que au moment où l'homme était capable de casser la terre grâce à l'arme atomique, au stockage d'armes atomiques, à la suite de la guerre froide, etc., et à la suite d'Hiroshima. Et donc, en quoi ceci était une bonne nouvelle, un évangile ? Eh bien, c'est l'évangile de la perdition, voulait dire, il n'y a pas de plan B, nous ne pouvons pas quitter la Terre pour aller ailleurs, nous sommes condamnés à vivre ensemble sans la casser, sans l'abîmer. Et donc en 2016, le pape François répond à cet évangile par une sorte de condamnation d'être ensemble, de vivre ensemble sur cette planète, par au contraire la joie, le bonheur possible d'un vivre ensemble dans une création qui est sans cesse une bonne nouvelle à faire vivre, à partager. C'est ça la vie, c'est cela la vie même de la maison commune. C'est un temps partagé, le temps de la visite, de la rencontre, de l'échange, Voilà ce qui permet d'avoir une maison commune. C'est de partager cette maison. Et la clé, c'est de prendre le temps du regard et de la reconnaissance de l'autre. Reconnaître la place de l'autre qui nous donne notre place. Être accueilli pour faire de sa maison une maison d'accueil. Finalement, la maison commune est le lieu de la vie selon l'hospitalité. Être accueilli. Non pas être d'emblée le maître de ce qui se passe, mais apprendre par l'accueil, par le fait d'être accueilli, apprendre à vivre le temps partagé, la visite, la rencontre, l'échange. Et c'est en cela que la vie, comme vie reçue, vient habiter dans notre corps, dans notre personne, dans le temps que nous avons à vivre de notre naissance à notre mort. La vie vient habiter quand, en nous, quand nous acceptons de l'accueillir pour la transmettre. Et c'est cela qui est la bonne nouvelle que la Bible, et singulièrement l'Évangile, le fait que le Verbe de Dieu, le Fils bien-aimé du Père, soit venu habiter, comme le dit le prologue de Jean, le Verbe s'est fait chair, et nous le chantons à la Noël, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc cet évangile, c'est finalement l'accueil de Dieu lui-même dans cette terre qu'il a créée avec amour et qu'il nous donne dans une sorte d'absence et de présence pour que nous puissions expérimenter le vivre ensemble selon l'amour de Dieu. Et pour ce faire, comme il a été dit au tout début de cette encyclique, il nous faut apprendre non pas à dévaster, mais à contempler le livre de la nature, le livre de la création, pour y lire une manière éthique, bonne, heureuse de vivre dans cette maison commune. C'est à cette contemplation, c'est-à-dire un peu comme Johann Arthus Bertrand, qui a d'ailleurs édité un très beau livre de Laudato Si avec des photos de la terre vue du ciel, eh bien, je reprends volontiers ce thème de voir la terre depuis le ciel. Contempler, c'est aussi essayer de rentrer dans le regard de Dieu qui se pose sur notre terre. Et c'est à cela que le pape François nous invite au paragraphe 85 de Laudato Si.
Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Les évêques du Canada ont souligné à juste titre qu'aucune créature ne reste en dehors de cette manifestation de Dieu. Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature est une source constante d'émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, une révélation continue du divin. Les évêques du Japon, pour leur part, ont rappelé une chose très suggestive. Entendre chaque créature chanter l'hymne de son existence, c'est vivre joyeusement dans l'amour de Dieu et dans l'espérance. Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre, parce que pour le croyant, contempler la création, c'est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse. Nous pouvons affirmer qu'à côté de la révélation proprement dite qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. En faisant attention à cette manifestation, l'être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la relation avec les autres créatures. Je m'exprime en exprimant le monde. J'explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde.
Oui, c'est cette contemplation, c'est cette terre vue du ciel qui fait naître une nouvelle fraternité dans cette maison commune. Fraternité que chantait saint François d'Assise, Laudato si. Car tout ce qui vient de Dieu en tant qu'il est Père, et nous le disons dans le credo, je crois en Dieu le Père créateur. Bien, tout ce qui vient de Dieu notre Père, le Père de Jésus-Christ est notre Père, source de tout amour, fait de chaque élément de la création un frère ou une sœur. Dans le regard de Dieu, il revient à l'être humain, à l'enfant de Dieu, de nommer et de célébrer cette fraternité universelle, Laudato si. Or, cette fraternité est une nouvelle manière de vivre, selon une bonne nouvelle, selon un évangile, selon, justement, un bonheur partagé, un bonheur reçu, partagé, transmis. Et c'est cette fraternité universelle qui fonde le cœur de l'encyclique Laudato si, à savoir l'écologie intégrale, le chapitre 4e de cette encyclique. C'est la clé de l'habiter ensemble dans une maison commune qu'est la terre vue du ciel. Alors qu'est-ce que l'écologie intégrale ? L'écologie intégrale est au confluent de trois mouvements de l'écologie qui, jusqu'à présent, s'ignoraient ou militaient chacun de son côté. Voilà la grande tâche maintenant à accomplir, y compris dans l'Église et pour le monde, c'est de faire converger tout ce que nous disons et vivons de l'écologie de la personne. Respecter la personne de sa conception à sa mort. Mais faire en sorte que ce respect de la personne soit une valeur universelle. Le deuxième courant, c'est l'écologie sociale. Faire en sorte que la société soit saine, que la société soit en santé, que la société soit en mouvement, que la société soit en vie partagée justement par tous, et donc à commencer par le plus faible, le plus petit, le plus vulnérable. Il y a une chanson, je crois, de Jacques Brel qui disait « C'est à la minceur des épluchures, que l'on reconnaît la grandeur des nations. » Eh bien, c'est au traitement de la personne la plus faible que l'on reconnaît la grandeur d'une société, écologie sociale, qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Et puis, l'écologie que nous connaissons, l'écologie de la nature, l'écologie de l'environnement. Eh bien, tout est lié, comme le répète à l'envi le pape François, c'est donc créer une synergie qui prenne en compte le meilleur de ces trois courants. Alors, pour vous faire comprendre, et avant de lire un paragraphe assez central de l'encyclique sur cette question, je voudrais vous donner un témoignage à propos d'Haïti. Je suis retourné en Haïti peu de temps après le fameux tremblement de terre qui a peut-être tué environ 300 000 personnes. Quand on compare effectivement avec tout ce qui est dit du coronavirus, les chiffres n'approchent même pas, pourtant ils sont mondiaux, ce qui s'est passé le 12 janvier 2010 à Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti, est une ville magnifiquement située sur la descente jusqu'à la baie de Port-au-Prince, jusqu'à la mer donc, la descente d'une montagne qui est le point d'ailleurs culminant d'Haïti à 2700 mètres d'altitude et qui descend donc très abruptement jusqu'à la mer. Et donc les beaux quartiers sont en haut et en bas, ce sont les quartiers de la misère. Or, Étant donc quelque temps après ce tremblement de terre, j'étais donc chez les frères qui ont une maison à Puy-Blin, la communauté des dominicains d'Haïti, et j'ai regardé le matin le flanc de la montagne qui nous faisait face. Il y avait une sorte de tache un peu grise qui arrivait jusqu'à une route. Et au-dessus de cette route, il y avait des buissons. On voyait que c'était la nature. Et en dessous, au contraire, une activité humaine, mais qui n'était pas facile à discerner. Et entre l'endroit où j'étais et ce flanc de la montagne, il y avait le haut d'une grue, une immense grue. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors les frères me disent, mais ça c'est jalousie. Alors jalousie, c'est un des bidonvilles de Port-au-Prince, accroché au flanc de la montagne. Alors c'est fait de tôles, de parpaings, de morceaux de bois, de tout ce qu'on a pu récupérer. Sur une pente, on se dit que là, s'il y a un glissement de terrain, il y a 10 000 morts. Et on ne voyait pas très bien ce quartier que j'avais connu, mais qui était à ses débuts, et là que je revoyais presque à sa taille maximale. Puis je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette grue ? On me dit, ben voilà, il y a un hôtel antisismique en construction, une tour, qui va être donc un hôtel de X étoiles pour recevoir tous les acteurs de la communauté internationale qui viennent remettre de l'ordre après le tremblement de terre. Donc ce sont des experts, il faut les loger, et donc il y a un hôtel, je ne sais pas à combien d'euros la nuit, et entre l'endroit où j'étais et ce bidonville, il y avait donc majestueuse cette tour en construction pleine de luxe. Et on voyait bien, l'écologie intégrale, c'est quoi ? Eh bien, c'est que, d'une part, l'environnement était agressé par ce bidonville, qui était une forme d'urbanisation sans argent, sans moyens, sans eau, sans électricité, sans rue, sans soutènement, sans aménagement de la pente. Et donc, on voyait là une espèce de cancer de misère qui attaquait la montagne. Et puis, on voyait au milieu cette tour, qui était faite pour, bien sûr, des gens venus d'ailleurs et qui dépensaient en un jour ce que, peut-être dans ce bidonville, on pouvait gagner en un mois ou en un trimestre ou en un an. Et voyez ce contraste, ce déséquilibre d'argent et de moyens entre la tour et le quartier Jalousie. Mais aussi, sachez qu'un bidonville, c'est un lieu où il n'y a pas d'intimité, c'est un lieu où on n'habite pas, parce qu'il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas de repos, il n'y a pas... J'ai vu un bidonville se faire en une nuit, dans une rue qu'on a recouverte de tôles et de morceaux de bois, et les gens passaient dans la rue qui était devenue un bidonville, c'est-à-dire où il y avait des cuisines, des chambres, des salles, et on se faufilait dans l'ancienne rue, comme à l'habitude, en enjambant des gens qui dormaient, etc. Donc on sait très bien que dans ces quartiers où la promiscuité due à la misère fait que la vie morale, la vie sociale, la vie personnelle, n'existe pas. Et donc la personne n'est pas respectée. Les jeunes filles sont, le plus souvent même, doivent vendre leur corps pour essayer d'aller à l'école. Enfin bref, c'est ce que la misère oblige à faire. Et donc l'écologie de la personne n'est pas respectée. L'écologie de la société n'est pas respectée. Et l'écologie de l'environnement n'est pas respectée. Et c'est ce tout est lié qui nous permet de comprendre la clé de la synergie nouvelle à créer pour que nous puissions habiter heureusement notre maison commune. C'est ce qui est dit dans le paragraphe 139.
Quand on parle d'environnement, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui l'habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle. Nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l'ampleur des changements, il n'est plus possible de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature.
Tel est l'enjeu de l'habiter. Habiter sa vie et laisser la vie habiter en nous, faire de notre corps la maison où se ressourcent notre cœur et notre esprit, pour préparer dans l'intimité de la personne la rencontre de l'autre et du tout autre. L'écologie intégrale est l'école de la synergie des respects et des échanges. Faire grandir notre personnalité de la patiente connaissance de l'autre, de Dieu, de la nature, à apprivoiser pour en recevoir les merveilles. La vie qui vient en nous est à apprivoiser dans le temps partagé, le temps mutuel de la maturation de la vie. La vie, c'est la maturation de la vie. Grandir dans la confiance mutuelle, faire grandir cette confiance dans le respect du temps de maturation. Faire grandir le partage quand la rencontre est faite et avancer. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait respect, connaissance et partage. Avancer sur le chemin pour découvrir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est aussi le message que, plus récemment, le pape François a adressé aux jeunes dans l'exhortation apostolique consacrée justement aux jeunes et aux vocations, Christus vivit. Il a un ton assez particulier pour nous réveiller de toutes nos habitudes et de tous nos endormissements.
Ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse. Ne regardez pas la vie à partir d'un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un canapé. Et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l'âme anesthésiée et ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit. Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent afin de ne pas être changé en jeune momifié. Vivez. Donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ouvrez la porte de la cage et sortez voler. S'il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l'heure.
Christus vivit, habitez la vie comme un élan et un repos pour un élan. Telle est notre manière d'habiter et d'aimer, d'habiter la vie et d'habiter avec autrui, avec l'humanité entière, pour que dans cette nouvelle synergie d'amour et de vie, l'humanité puisse enfin trouver la juste mesure des relations qui existent entre nous. Et je pense que cette juste relation nous est apprise par l'accueil de l'Esprit-Saint. Et je terminerai en disant que la vie, et la vie dans notre corps, dans notre vie, dans notre temps, la vie dans nos relations à autrui, est entièrement animée par l'Esprit-Saint. C'est aussi, et parfois, un oublié de la vie chrétienne, alors que faire appel à lui pour que vive ce que saint Paul dit à l'Épître aux Romains, l'Esprit de Dieu habite en vous. Saint Irénée, dès le IIe siècle, le premier grand théologien de l'histoire de l'Église, nous dit que le Fils et l'Esprit sont les deux mains du Père qui, sans cesse, nous façonnent et façonnent l'humanité pour qu'elle devienne de plus en plus semblable à l'humanité du Christ. Eh bien, laisser l'Esprit de Dieu habiter en nous, lui donner un espace, lui donner le temps pour que l'Esprit s'habitue à nous et que nous puissions nous habituer à l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que se conclut l'encyclique Laudato Si, et c'est un appel à vivre ce carême, à vivre ce temps de préparation à la Pâque, comme justement l'appel à un élan nouveau, à une vie nouvelle à l'intérieur de cette vie, à nous tourner vers ce Dieu qui nous attire à lui. « Élevé de terre, dit Jésus, j'attirerai tout à moi. » Eh bien, qu'il attire notre maison commune. Prions-le.
C'était Charité, quand tu nous tiens, habiter notre maison commune, une conférence donnée par le frère Gilles Danroc au couvent des Dominicains à Toulouse.